bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la violence à la barre. Rendez-vous à 12h55 avec l'auteur de La volonté de punir et de la justice dévoyée. Au lendemain de la mobilisation des surveillants de prison, Denis Salas analysera pour vous les nouvelles perceptions de l'opinion, la place des victimes, le sens de la peine et enfin le renforcement de l'état pénal. Avant lui, le « Entre les murs » de Bettina Reims. Elle a photographié une soixantaine de femmes détenues dans 4 prisons différentes. Une nouvelle série où il est question de se montrer et de se reconsidérer. À voir au château de Vincennes jusqu'au 30 avril, puis au château de Cadillac près de Bordeaux jusqu'au 4 novembre. Et dans un beau livre simplement intitulé « Détenu », préfacé par Robert Badinter et publié chez Gallimard. Longtemps adepte du noir et blanc, la portraitiste Bettina Reims nous revient en couleur. À écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Elle n'a cessé de questionner la féminité des clichés de mode aux séries Modern Lovers, espionnes, héroïnes ou encore Gender Studies, femmes célèbres ou anonymes. Elle poursuit avec Détenue, présentée en partie dans la grande rétrospective que la Maison européenne de la photographie à Paris lui consacrait en 2016. Ces photos, une soixantaine de clichés, sont présentées ici en intégralité à partir d'aujourd'hui au château de Vincennes. Bonjour Bettina Reims.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Série après série, votre définition de la féminité semble se préciser. Qu'est-ce qui fait femme pour vous aujourd'hui, à vos yeux ?
Je crois que ce que j'ai toujours aimé chez les femmes, c'est ce mélange de fragilité, de féminité et de partie masculine. Je crois que c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai dans mes séries. J'ai travaillé il y a quelques mois avec les Femmes, qui était un peu le maximum, l'aboutissement de ces femmes qui s'approprient des codes qui sont plutôt des codes d'hommes. Cette série en prison, je l'ai faite il y a 3 ans, 3 hivers, je crois. Oui, c'est le 3e hiver.
En 2014.
En 2014. Je suis effectivement allée dans 4 lieux de détention. Un était une prison pour femmes, Rennes, un peu comme un couvent, avec une espèce de douceur. C'est la prison des longues peines, c'est la prison où les femmes s'installent, font leur vie. Et puis 3 lieux de détention qui sont des prisons pour hommes, et la plupart des prisons en France sont des prisons pour hommes, dans lesquelles, au fond du fond du fond d'une xième cour, il y a un tout petit bâtiment qui est consacré aux femmes.
Qu'on appelle le quartier réservé.
On appelle le quartier réservé, je ne savais pas. En tout cas, c'est le quartier des femmes. En général, il y a plus de 1000 hommes et il y a 60 ou 80 femmes. Les femmes sont assez peu nombreuses dans les prisons en France, mais à force de dire ça, il y a de plus en plus de détenus. 4% de la population carcérale, je ne sais pas combien ça fait, mais ça fait du monde. Et les femmes en prison sont oubliées. Elles sont mises de côté.
Toute cette envie de les redonner, de les donner à voir et de leur donner à elles la possibilité de se voir. Pour cette nouvelle série Détenue, vous vous êtes donc rendue dans ces 4 prisons. Il y a Rennes, vous l'évoquiez, Lyon, Poitiers et encore Roanne. Est-ce qu'elles ont été des sujets volontaires? Celles qui souhaitaient être photographiées sont venues vers vous à partir du moment où vous avez signalé votre présence?
Alors le dispositif était le suivant. Ça a été très long d'abord. Ça a été très long d'obtenir les autorisations, l'administration pénitentiaire est une administration particulièrement pointilleuse. Donc, quand j'ai pu leur exposer mon projet, qui était de rendre à ces femmes une féminité, une estime de soi, que j'avais lu beaucoup de blogs et j'avais lu beaucoup d'entretiens avec des femmes qui avaient été détenues, et ce qui m'apparaissait, ça me paraissait le sujet, le sujet essentiel, c'est que ces femmes expliquent que quand elles rentrent en prison, sans argent, souvent abandonnées par la famille, parce qu'elles habitent loin, parce qu'elles sont rejetées, parce qu'elles sont seules, petit à petit, et très vite d'ailleurs, elles se perdent. Il n'y a pas de miroir en prison. Elles ne se voient pas. Quand on ne se voit pas, on n'est plus regardé. Et une des choses qui m'avait beaucoup frappée d'ailleurs, c'est que les raisons pour lesquelles les femmes sont en prison viennent en général des hommes. des hommes violents, des pères, des maris, des compagnons. Et malgré tout, le fait de ne plus être regardée par des hommes, parce qu'en prison, les surveillants sont des surveillantes pour les femmes, fait qu'elles s'oublient, qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. Et donc, mon idée, c'était de leur offrir une image en les aidant à se faire jolie, à se coiffer, à se maquiller, éventuellement à s'habiller un peu mieux, et à leur donner une image qui les aiderait, en tout cas, au moment où elles sortaient ou qu'elles pourraient envoyer à quelqu'un de leur famille.
Et alors, est-ce que ça a créé des jalousies, des envies, ou peut-être plutôt créé des discussions entre les détenus, mais aussi entre les détenus et les surveillantes?
Ça a créé beaucoup de discussions. D'abord, la première discussion, et celle, la première fois que je suis allée les rencontrer, elles avaient signé pour me rencontrer. Il y en avait une cinquantaine dans chacune des prisons. Et donc, j'ai fait un premier tour, et là, je leur ai montré mon travail. Parce qu'elles n'ont pas Internet, donc elles ne savaient pas ce que je faisais. Et là, je ne pensais pas, je leur ai expliqué ce que je voulais faire. Et on a eu une vraie conversation qui a duré 3 heures, 4 heures dans chaque endroit, qui était une vraie conversation de femmes. Les questions qu'elles posaient étaient questionnées vraiment cette histoire de la féminité. Pourquoi vous voulez nous maquiller? Vous voulez nous objectiviser? On est mal en prison. Et pourquoi vous voulez donner une image de nous plus positive? On est oublié, personne ne s'intéresse à nous. Et donc, je leur ai proposé ce contrat, comme ça, ce pacte avec moi, que si elles signaient le contrat de poser à visage découvert et d'accepter de figurer dans cet ouvrage, ou sous le nom de détenue, je pourrais les aider, non pas à leur ouvrir la porte, parce que c'est pas mon rôle de les juger ou de les rejuger. Elles sont là pour purger leur peine, mais en tout cas de leur ouvrir une fenêtre, de les faire passer comme ça un moment différent, un moment pour se retrouver. Et puis, j'ai pensé que c'était simplement des photos qui étaient destinées à la famille. Et puis, j'y ai beaucoup réfléchi à ce travail. J'ai eu le temps parce que 3 ans se sont passés. Et je me suis rendu compte qu'au fond, leur demande était plus importante que ça. C'était une demande que la société les regarde à nouveau, qu'on arrête de les sortir du chemin, qu'on les remette sur la route. Ce sont des citoyennes, après tout. C'est des citoyennes comme vous et moi. C'est des femmes qui ont dérapé, qui ont pris le mauvais chemin, qui étaient, peut-être le chemin a été foutu dès le départ. Mais personne, au fond, j'ai jamais vu, presque jamais, des entretiens avec des femmes détenues. C'est très rare. Et je voulais les ramener à la lumière. Je voulais qu'on les regarde. Voilà.
Et qu'elles se regardent. Parce que c'est un jeu de regard et un jeu de miroir, comme vous l'évoquez. Et c'est aussi ce que dit l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, qui a préfacé le catalogue de l'exposition Détenue et qui vous a aussi un peu encouragé à faire cette série Pris par la main pour vous rendre dans ces prisons.
Dans les cellules, il n'y a pas de miroir. Les femmes ne se voient pas dans leurs cellules. Comme on l'avait construit grand au 19e et au début du 20e siècle, il n'y a pas ici, dans les maisons d'arrêt, la surpopulation pénale 2-3. Elles ne se voient pas. Il faut qu'elles sortent de la cellule à certains moments pour trouver un miroir. L'objectif, l'œil que constitue la caméra, l'œil de l'autre. D'un seul coup, elles s'y lisent en quelque sorte. Et à cet instant-là, vous les voyez se transformer. Mais ce qu'elles ont en commun, c'est ce regard. Et en ce qui concerne le regard du prisonnier, l'œuvre d'art que je considère comme la plus belle, très peu connue, c'est le regard du prisonnier qui regarde à l'extérieur par le Judas, qui est de Dylan Redon. Et c'est lui qui, d'un seul coup, vous regarde. C'est que vous le regardez et il vous regarde. Mmh. C'est son regard que vous recevez. C'est la même chose avec les photographies de Bettina Reims.
Robert Badinter, récemment sur France Inter, libérer le corps des détenus en les enfermant dans un autre cadre, celui de la photographie. Ça peut paraître paradoxal, Bettina Reims, sauf si on inverse peut-être la perception. Ces séances, vous les avez plutôt considérées comme une fenêtre ouverte dans leur vie à elles, une fenêtre sans barreaux.
C'était une volonté de ne pas montrer la prison, de ne pas les photographier dans les cellules, de ne pas les photographier derrière les barreaux, mais de les photographier sur un fond blanc. Il n'y a pas d'anecdote dans ces images, ce sont véritablement des portraits. Et si on les regarde comme ça et qu'on feuillette le livre ou qu'on marche dans l'exposition, on peut faire un tour en se disant c'est des portraits de femmes, il y en a des jeunes, des vieilles, des belles, des moins belles, des un peu plus chics. Qui sont ces femmes? Qu'est-ce qui les relie? Et puis quand on fait un tour une deuxième fois, on se rend compte, comme disait Robert Badinter à l'instant, qu'il y a quelque chose dans le regard, quelque chose d'étrange. Il y a celle qui regarde dans la caméra, et celle-là, c'est un appel, c'est un cri de détresse. Et puis il y a celle dont les yeux s'échappent. Il y a celle à qui probablement cette séance de photo a permis pendant un moment de rêver, de s'en aller ailleurs, de sortir de là.
Voilà, les corps ne sortent jamais du cadre.
Les corps ne sortent pas du cadre.
Mais les regards parfois se font la belle.
Oui, les regards se font la belle. Et par exemple, ce qui était étrange, c'est que moi je travaille assez vite. Il y a certaines de ces femmes, en 10 minutes, un quart d'heure, le portrait était fait. Mais je sentais qu'elles avaient besoin de temps, de ce temps, pour se raconter. Et je continuais, même si je savais que c'était pas indispensable, parce que je leur devais ce temps. Vous savez, en prison, les gens ne se parlent pas. Les femmes ne se parlent pas entre elles, les surveillantes ne parlent pas aux femmes. Au fond, c'est deux populations quasiment enfermées toutes les deux, qui peuvent confronter l'une à l'autre. Il y a beaucoup d'agressivité verbale, mais physique aussi. On n'a pas confiance, on ne fait pas confiance à sa voisine de lit, de cellule. Et moi, j'étais là, j'allais sortir. Elles ont compris très vite que j'étais pas là pour les juger, que peu m'importait ce qu'elles avaient fait, et donc elles me l'ont raconté. Elles m'ont toutes raconté ce qu'elles avaient fait. Alors au début, c'était compliqué. Bon, d'abord, la première fois qu'on rentre en prison, c'est compliqué.
Mais c'est vrai que c'est important de le dire. C'est une question qu'on se pose toujours quand on va en prison, si on y va un jour, mais qu'on ne pose pas ou peu quand on est visiteur dans une prison. C'est le pourquoi sont-elles là, ces femmes, ou sont-ils là, ces hommes? Quels délits, quels crimes ont-ils commis? Vous avez pris le parti de les écouter ou de leur poser la question?
Au début, je les ai écoutées avec stupéfaction, avec stupeur, parce que elles racontaient très très simplement, bien souvent, des choses indisibles, inaudibles. Mes assistants, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, étaient le premier jour complètement bouleversés. Ils disaient, mais est-ce que vraiment on doit y retourner? Est-ce que vraiment il faut s'intéresser à ces femmes? Est-ce qu'on peut pas les laisser là où elles sont? Et puis on a eu des grandes discussions sur le fait qu'on n'était pas là pour les rejuger, ni pour avoir des préjugés, que c'était pas notre problème. Et puis petit à petit, il y a une espèce de curiosité qui s'installe. Alors on a envie de dire, si vous voulez nous raconter, racontez-le nous. Et en fait, elles ont toutes parlé. Le soir, quand je sortais dans ma petite chambre d'hôtel à côté de la prison, ça dure longtemps, hein, un hiver en prison, c'est long, même si on sort le soir et qu'on n'est pas détenu soi-même. C'est quand même une espèce de forme d'emprisonnement. Et donc le soir, je prenais mon téléphone, mon dictaphone, et je dictais mes impressions de la journée, probablement pour me vider suffisamment pour pouvoir me remplir le lendemain, pour pouvoir y retourner. Et donc ces notes, elles sont restées enfouies dans mon téléphone. Et quand on avait quasiment fini la mise en page du livre, avec les gens de chez Gallimard, ce très beau texte de Robert Badinter, ce merveilleux texte de Nadège Lanéry-Dagen, qui est historienne d'art, et les photos, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et j'ai ressorti mes fragments, j'ai appelé ça des fragments, j'ai ressorti mes fragments du téléphone, et je me suis rendu compte, en les mélangeant, en faisant en sorte que personne ne puisse se reconnaître, parce que c'était le contrat, il fallait pas qu'aucune femme ne soit reconnaissable, il fallait pas qu'on dise « Ah oui, cette histoire, ça doit être elle ». Non, j'ai à travers ces petits moments de vie quotidienne, ces petites misères de chaque jour, reconstituer quelque chose de ce que c'est que la vie à l'intérieur de la prison pour une femme, c'est atroce.
Le même fond blanc, gris, vous l'évoquiez, un peu plus doux que froid d'ailleurs, un lieu neutre par choix qui ne révèle rien de l'univers carcéral dans lequel ces femmes se trouvent. Dans Naked War, l'exposition présentée l'an passé à la galerie Xipas, vous présentiez, vous l'évoquiez, une série de photos de femmes combatives, des activistes, des fémaines en tenue de combat, c'est-à-dire seins nus, habillées de slogans, faisant de leur corps des outils de communication politique. Les détenues que vous avez rencontrées pour cette série, Bettina Reims, elles sont des résistantes à leur manière, pour vous? Est-ce qu'elles sont aussi combatives ou au contraire plutôt abattues? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces regards?
J'ai rencontré des victimes. J'ai rencontré des victimes. Des victimes de violences, des victimes, des femmes qui étaient quasiment... On aurait pu l'inscrire longtemps avant que c'était là qu'elles allaient arriver. Des femmes maltraitées, des femmes mal regardées, des femmes pas considérées. Et elles sont pas considérées dans la vie. Elles dérapent, elles tuent pour protéger parfois leurs enfants, elles tuent parce qu'elles en ont assez qu'on leur tape dessus. C'est bien souvent des crimes domestiques, il y a aussi des criminels, il y a aussi des histoires folkloriques de voyous. Mais beaucoup sont là par misère morale, misère tout court. Non, j'ai pas rencontré beaucoup de combatives. Des terroristes, on m'a refusé de les photographier. Il y a des terroristes, il y a des femmes terroristes en prison, des Basques en particulier. Et ça, j'ai pas eu le droit de les photographier. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont là et qui devraient être dans des hôpitaux psychiatriques, qui devraient être soignées. Il y a un mélange de tout qui est très étrange au départ. Une femme était là parce qu'elle avait eu 3 retraites permis. Une autre était là parce qu'elle avait volé pour nourrir ses enfants. Et elle partageait sa cellule avec une qui avait tué 3 personnes. Tout ça est une espèce de... Voilà, on les jette là et on ne veut pas les voir, on ne veut pas les regarder. On les jette là et on attend que le temps passe.
Aller regarder, aligné sur une grande table, un mystérieux air de famille apparaît pourtant sur ses visages. Est-ce la condition carcérale qui donne aux détenus ce regard commun, presque identique, alors que leurs yeux même sont si différents? Ce n'est pas en prison qu'il faut espérer trouver les femmes en fleurs. Force est de constater que ces femmes, encore jeunes pour la plupart, ont perdu cette lumière des visages et des corps qui éveillent autour d'elles les promesses du désir. Voilà ce qu'écrit Robert Badinter dans la préface de ce catalogue, de ce beau livre de photos détenues, signé de vous, Bettina Reims. Allez la Diane, dans un nouvel album, rend hommage, elle, à la femme aussi, à travers la maternité. L'album s'appelle Cusp et il sort aujourd'hui. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. I can feel the fear hang heavy on the water, glinting sharply with the pale moonlight. Mothers, hold on tightly to your children, the waves are breaking violently tonight. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? I hear yelling, I hear crying, I hear praying as the ocean threatens us on all 4 sides. The water rises deeper every minute. This vessel cannot bear the burden of our load. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? 5e album d'Allez la Diane qui sort donc aujourd'hui, Cusp, avec ce titre Émigré. Elle sera en tournée avec notamment 5 dates en France. Mais pour ça, il faudra attendre avril, midi 22, sur France Culture. Notre invitée, la photographe Bettina Reims.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Bettina Rhin, ce qui se joue ici, ce n'est pas une libération de la parole des femmes, c'est plutôt une libération des corps. Vous pensez qu'on peut libérer quelque chose en nous par le corps, justement? Quel dialogue pouvez-vous instaurer entre les corps par la photographie?
C'est très intéressant comment se passe une séance de photographie. C'est comme une espèce de danse qui se jouerait à deux. Une sorte de tête-à-tête bizarre. Ce qui m'est arrivé en prison, ça ne m'était jamais arrivé avant. C'est-à-dire que j'avais souvent du mal à faire mes photographies tellement elles avaient envie de parler. Le corps était souvent comme mort, mais la parole était retrouvée. Elle me parlait. On ne peut pas photographier quelqu'un qui parle, ça déforme le visage, on ne peut pas. Et en même temps, je ne pouvais pas les arrêter, il fallait qu'elles parlent. Le corps, c'était difficile. Ces corps sont abîmés, ces corps ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes. Il y a des jolis moments dans ces photographies de femmes, jeunes en général, qui essayent d'imiter un petit peu maladroitement des poses qu'elles ont vues dans des magazines. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Je sais pas, je crois qu'elles passent l'essentiel de leur temps sur un lit, à ne plus bouger, à prendre des médicaments. Tout se passe dans les cellules en France. C'est pas comme dans les feuilletons américains ou dans les séries. Elle mange dans la cellule, elle se lave dans la cellule, elle reste dans la cellule. Il y a rien à faire. C'est un autre temps. C'est un temps bourré de cachets. Et c'est un temps où on ne peut rien faire de son corps. Il n'y a pas de salle de sport, il n'y a pas de possibilité de bouger même. Le corps s'alourdit, le corps perd sa manière de bouger, le corps se perd. Et donc j'ai particulièrement dû les accompagner pour qu'elles retrouvent quelque chose, pour qu'elles reconnectent la tête et le corps. C'était ça le plus difficile. J'ai pas réussi à tous les coups d'ailleurs, mais il fallait reconnecter ce corps de femme meurtrie, abîmée, et le remettre en route, le remettre en vie. C'était comme s'il fallait remettre des piles.
Ici, pas de séduction ni d'artifice, une sorte de réalisme qu'on peut retrouver dans des photos de mode plutôt, hein, à la Peter Lindbergh aussi. Depuis les débuts de l'affaire Weinstein, le monde de la mode n'est pas non plus épargné, Bettina Rhins, après les accusations de viol contre David Hamilton qui a mis fin à ses jours, lui, en novembre 2016. Depuis l'affaire Weinstein, donc, plusieurs photographes se sont vus accusés de harcèlement sexuel par des mannequins, femmes ou hommes d'ailleurs, Terry Richardson, Mario Testino, Bruce Weber. La photographie est un art du désir et de la représentation, mais quand même, quel rapport de force se joue dans ce moment-là, dans la famille Badinter? Je vous propose maintenant d'écouter Madame Elisabeth Badinter, qui s'est exprimée hier pour la première fois depuis l'automne, depuis cette vague de révélations qui s'est ouverte avec l'affaire Weinstein. C'était dans la grande librairie.
On connaît l'aspect, je dirais, libérateur de raconter un traumatisme qui vous est arrivé, de l'écrire, de mettre au net. Et c'est comme si, je pense aux femmes qui ont été violées ou l'objet de violences physiques, je pense que c'est ne pas en parler, c'est un cancer qui se développe, parce que la plupart des témoignages de femmes violées, c'est toujours la même chose. Je ne pouvais pas raconter, j'essayais d'évacuer, de ne plus y penser, et ça pouvait durer des années. Et ce témoignage est tellement répétitif qu'il faut le prendre en compte. Et au fond, ça a dû soulager énormément de femmes. Et en ce sens, c'est effectivement très important ce qui s'est passé pour les femmes. Je pense que, je vous dis franchement, je n'apprécie pas la balance. En revanche, j'ai trouvé assez formidable ce qu'ont fait les Suédoises. Les premières qui ont décidé de réagir à leur tour, qui étaient des actrices, des chanteuses lyriques d'ailleurs aussi, et qui ont décidé qu'elles appelaient par un hashtag ou Facebook toutes les femmes qui avaient été objets ou sujets d'abus, ou plutôt objets d'abus, de témoigner sans donner les noms. Et ça, c'était pour moi la preuve d'un respect de la justice et de la démocratie et d'une certaine élégance.
Quelque chose est en train de se fissurer, quelque chose est en train de craquer, y compris dans ce monde dans lequel vous évoluez depuis un certain nombre d'années, Bettina Reims. Comment vous percevez tout ça ?
C'est très compliqué. J'en ai parlé beaucoup d'ailleurs avec Elisabeth Badinter il y a peu de jours, et aussi avec Catherine Millet. Il y a eu des maladresses qui ont été dites, mais je suis évidemment d'accord avec la libération de la parole. Ça me paraît très très important. Dans mon métier, par exemple, on savait qu'un certain nombre de photographes faisaient pression sur les agences de mannequins. Mais il n'y a pas que les photographes, il y a les agences de mannequins qui obligeait les filles et les garçons d'ailleurs à aller chez des photographes dont on savait que c'était des prédateurs, mais s'ils n'y allaient pas, on les menaçait que leur carrière se terminait. On savait, on ne parlait pas. Je veux dire que tout d'un coup, le magazine Vogue décide de ne plus faire travailler ces photographes. C'est très très bien, mais ils auraient pu commencer il y a des années. Je suis d'accord avec le principe. Là où je suis pas d'accord, c'est cette avalanche de gens qu'on fait tomber sans preuve, ce qui se passe en ce moment avec les politiques, avec les ministres. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la délation.
Avec des faits mais sans procès.
Oui, et on a toujours dit que la France était le pays de la délation. Vous savez, pendant la guerre, c'était les Français qui dénonçaient le plus.
Voilà, le mouvement a quand même commencé largement aux États-Unis. Je pense qu'on est très modéré et très réservé en France sur la question notamment des noms qui peuvent être donnés dans ce mouvement.
Oui, il faudrait qu'on le reste aussi.
Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement réinterroge aussi la question des représentations, y compris dans la photographie. Femme photographe, vous photographiez, vous représentez les femmes. Est-ce que le fait d'être une femme vous a donné aussi envie de véhiculer d'autres représentations très tôt des femmes et de la féminité ?
Oui, bien entendu. Quand j'ai commencé, les féministes m'en voulaient beaucoup. Elles disaient que je faisais un travail d'homme et que montrer les femmes comme je les montrais, c'était pas correct quand on était une femme. Moi, je crois que ce que je fais, c'est véritablement un travail de femme. C'est un travail de confiance, de complicité et surtout de faire sortir quelque chose d'extrêmement fort chez elles. Pour moi, ce que j'aime, c'est ce mélange de force, de fragilité, mais mes femmes sont des guerrières depuis toujours. C'était drôle de rencontrer les femmes parce que j'arrivais au bout quelque part de quelque chose que j'ai toujours fait depuis 40 ans. C'est transformer les femmes célèbres ou anonymes en guerrières quelque part et en femmes en maîtres de leur destin. Je veux dire, c'est curieux la photographie parce que à la fois il y a des rapports de séduction, mais aussi il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne dans une séance de photo. Il faut prendre le dessus et à ce moment-là, on n'est plus tout à fait une femme. Moi, je fais un travail qui est un travail à la limite sur le fil. C'est des rapports compliqués. Il faut du temps pour en parler. Voilà, c'est.
C'est des rapports de regardeur et de regarder, et quand même de domination.
De regarder, jamais de voyeur, mais de regardeur, bien sûr, de regardeur d'une condition qui est aussi la mienne. Et parfois le sentiment que c'est presque des autoportraits, ces photos.
Merci beaucoup, Bettina Reims. Détenue, exposition à voir en ce moment, à Versailles, donc, jusqu'au printemps. Puis l'exposition va se balader. Détenue, c'est aussi le titre du catalogue livre de photos préfacé par Robert Badinter qui vient de paraître chez Gallimard. Merci beaucoup.
Merci.